Les cours du Collège de France, Denis Duboul, chaire Évolution du développement et des génomes.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième leçon de ce cours sur la fabrique des embryons, entre guillemets. Ce soir, nous allons parler de quelques notions d'embryologie comparée, de gastrulation. Alors, rassurez-vous, on va passer assez rapidement là-dessus. Et puis, on va discuter, encore une fois, assez rapidement, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises les années précédentes, du matériel qui est à la source de la production de ces pseudo-embryons, à savoir les cellules ES et les cellules IPS. On fera un petit rappel là-dessus. Et puis ensuite, on passera alors au plat de résistance, qui est à la fois la culture, les protocoles de culture, des résultats récents tout à fait remarquables, comme vous le verrez. Et puis, on parlera aujourd'hui du premier des trois exemples que j'ai choisis sur ces pseudo-embryons, qui sont donc les blastoïdes humains. Voilà. Alors, la semaine passée, je vous ai fait une liste assez longue des justificatifs, des arguments pour lesquels les scientifiques actuellement pensent qu'il est essentiel d'étudier l'embryon humain et donc de ne pas se contenter des observations que nous avons accumulées pendant pratiquement 4 ou 5 décennies en utilisant des modèles mammifères comme la souris de laboratoire. Et vous vous souvenez qu'une des raisons principales que j'ai mentionnées, c'est bien sûr l'existence de différences entre l'embryon humain et l'embryon murin. Bien que ces deux embryons soient des embryons mammifères, et bien que même tous les vertébrés en fait partagent des principes de développement qui sont très très semblables, voire identiques, il y a des différences qui sont très importantes. Et j'aimerais commencer cette leçon ce soir en illustrant ce point précis en discutant de quelques-unes de ces différences pour illustrer une dernière fois l'importance de travailler avec l'embryon humain ou avec des ersatz d'embryon humain et de ne pas se contenter des modèles animaux que nous avons utilisés jusqu'à présent. La première de ces différences est une différence très intéressante qui se trouve dans le tempo du développement, dans les séquences temporelles de ceux qui arrivent pendant le développement précoce. Et vous voyez ici, en haut, le développement d'un embryon humain, pré-implantation, donc jusqu'à ce stade blastocyste, et en dessous, l'embryon de souris. Et si vous regardez le point de départ et le point d'arrivée, le blastocyste, donc juste avant l'implantation, on voit qu'en fait, ces deux points sont relativement identiques l'un à l'autre. Mais lorsque l'on regarde ce qui se passe entre, on voit qu'il y a des différences de temps qui sont assez intéressantes. Je vais en noter une ici, qui est ce qu'on appelle la vague majeure d'activation du génome zygotique. Alors, ça peut paraître un peu compliqué. En fait, c'est très simple. Pendant les premiers stades du développement, de la fertilisation et les jours qui suivent, le génome de l'individu lui-même est silencieux. Et donc tous ces stades de développement vont être assurés en termes d'énergie, de disposition de matériel, parce que la mère aura déposé dans l'oocyte. C'est ce qu'on appelle des messagers maternels. Il y a de l'ARN, il y a des protéines. Donc c'est la mère qui va déposer dans l'oocyte, ici, le matériel suffisant. Selon les espèces chez les vertébrés, ça peut être très peu pour assurer quelques jours, quelques heures, ou ça peut être énormément de matériel. Pensez par exemple aux oiseaux, hein, avec cette énorme quantité de matériel, pour tenir plus longtemps. Mais à un moment donné, le génome zygotique, le génome de l'embryon, va se réveiller, s'activer, par exemple commencer à produire des ARN qui eux-mêmes vont produire des protéines, donc pour assurer le développement de l'embryon. Et vous voyez ici que chez l'humain, Ça va se passer autour du troisième jour, entre le huitième et entre le stade de 8 et de 16 cellules. Chez la souris, cette activation va se passer au deuxième jour, un jour et demi, deux jours, au stade de 2 cellules. Donc on voit déjà là qu'il y a des différences qui sont vraiment intéressantes sur le mécanisme qui va réactiver ce génome, hein, des mécanismes épigénétiques qui vont faire que le génome zygotique va se mettre en marche très rapidement chez la souris, plus lentement chez les humains. Une autre différence, outre la différence de taille, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai noté, de 200 microns pour le blastocyste humain, qui est légèrement supérieur au blastocyste de la souris, c'est pas extrêmement important. Mais par contre, une différence alors qui est très intrigante, et qu'au jour d'aujourd'hui, on a de la peine à en expliquer les raisons, c'est la façon dont ces blastocystes vont s'implanter dans la muqueuse utérine. On en reparlera à la fin de cette leçon, mais chez les humains, ça va se passer au travers du trophectoderme polaire, c'est-à-dire le trophectoderme qui se trouve proche de la partie épiblastique ici, donc proche de l'endroit où l'embryon va se développer. Donc le blastocyste va se coller à la muqueuse utérine par l'endroit où l'embryon va se développer. Alors que chez la souris, vous voyez que c'est l'inverse. La souris va s'implanter par ce qu'on appelle le trophectoderme pariétal ou mural, qu'on va trouver ici, autrement dit, dans l'autre sens. Donc on va avoir chez l'humain une implantation dans ce sens-là, chez la souris, on va avoir une implantation dans ce sens-là. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que ces différences de stratégie d'implantation pourraient nous expliquer pourquoi on a peut-être des différences dans le succès de l'implantation, par exemple ? On n'en sait rien. Donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel d'étudier et évidemment qu'on ne peut pas étudier en utilisant des souris, puisqu'elles s'implantent à l'envers. Une autre différence alors qui est majeure, vraiment, et sur laquelle je ne vais pas trop insister parce qu'on rentre dans des détails de l'embryologie comparée entre l'homme et la souris, qui sont des détails très intéressants mais un peu fastidieux, c'est que l'embryon chez les humains va se développer à partir de cette partie rouge, qui est donc l'épiblaste, on reviendra là-dessus dans quelques minutes, et cet embryon va se développer en forme de disque sur la longueur, un peu comme une saucisse. Je vais vous montrer dans quelques minutes une vue de dessus. Vous verrez que c'est une sorte de plaque, en fait. Donc on a un développement qui est un développement qui se rapproche, en fait, curieusement, toute proportion gardée, du développement des oiseaux, qui eux aussi se développent dans une sorte de disque. Alors que si vous regardez la souris, on voit qu'il va y avoir des tensions cellulaires qui font que l'embryon va s'allonger et développer une structure qu'on va appeler une structure d'off-cylindre, de cylindre off, ex-cylinder en anglais. Donc l'embryon va se développer dans une structure allongée. La gastrulation dont je vous parlais la semaine passée, et sur laquelle je vais revenir dans une minute, va donc se faire de façon différente. Chez l'humain, la gastrulation va se faire par des cellules rouges ici de l'épiblaste qui vont s'invaginer vers le bas pour donner du mésoderme, puis plus tard de l'endoderme, alors que chez la souris, c'est cette partie-là qui va s'invaginer pour donner du mésoderme et de l'ectoderme. Donc on a des processus de gastrulation qui sont vraiment différents, bien que, souvenez-vous, les deux photos que je vous montrais au début du cours de la semaine passée, si l'on regarde des fœtus une fois que la gastrulation est terminée, eh bien, bon, ils sont légèrement différents, souvenez-vous la taille des cerveaux, etc. Mais en fait, ils se ressemblent énormément. Donc là, une fois de plus, on a ce phénomène que je décrivais la semaine passée, où ce qui compte finalement, ce qui est sélectionné, la cible de la sélection, c'est la forme finale. Et ma foi, une fois qu'on a la forme finale, on peut jouer avec ce qui va nous conduire vers cette forme finale. Donc on peut avoir différentes façons d'arriver à des formes qui se ressemblent beaucoup. Alors, à ce stade, l'embryon va entrer en gastrulation. C'est ce fameux mécanisme dont j'ai parlé à plusieurs reprises ces dernières années. Et la raison pour gastruler, le résultat de la gastrulation, souvenez-vous, c'est simplement d'organiser les trois feuillets fondamentaux du développement, donc l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, à partir desquels tout va se passer. Toutes les structures de notre corps, tous les organes, toutes les glandes sont produites par un de ces trois feuillets embryonnaires, généralement par un mélange de deux, voire un mélange de trois. Mais il y a un point de départ qui correspond à un feuillet embryonnaire. Alors, un tout petit mot sur la gastrulation. Peut-être pas trop insister sur l'aspect sémantique, mais en ce qui me concerne, ça c'est un avis assez personnel, je pense qu'on peut parler d'un avant-gastrulation qui serait un embryon et d'un après-gastrulation qui serait un fœtus. Alors maintenant, si on part sur des discussions légales, éthiques, on peut avoir des avis différents. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de la gastrulation, on reconnaît qu'on a un embryon vertébré, mammifère. La forme typique, la tête, les membres qui commencent à pousser, le système nerveux sur la partie dorsale. Donc on a vraiment quelque chose qui ressemble à un adulte futur, donc ce que je qualifierais d'un fœtus. La gastrulation peut se dérouler de façon très différente et une bonne façon de la comprendre, c'est de l'étudier chez les amphibiens. C'est une façon historique, évidemment. Il y a énormément de travail qui a été fait sur les amphibiens par toute l'école allemande d'embryologie classique, mécanistique. Et là encore, je ne vais pas trop insister, mais j'aimerais vous rappeler deux choses. La première, si on regarde le développement d'un amphibien, on s'aperçoit que la taille générale ne change pas. Je mentionnais cela la semaine passée déjà. Donc on a toute une première phase de développement qui consiste à diviser des cellules en plus petites cellules, des grands blastomères en tout petits blastomères. Et puis on arrive à ce stade-là d'une morula, donc quelque chose qui ressemble à une petite mûre, et puis on va faire une cavité. Comme pour un blastocyste, on va pomper de l'eau, une cavité blastocélique. À ce stade, chez les amphibiens, on appelle ça une blastula, plutôt qu'un blastocyste. Et puis, va se passer la gastrulation. Mais ce que j'aimerais vous dire, la raison pour laquelle je vous montre cette image, c'est que chez les amphibiens, déjà à ce stade, déjà au stade du premier clivage, la mère a déposé à l'intérieur des éléments qui préfigurent déjà une organisation spatiale, un peu comme chez la mouche, pas autant, mais il y a aussi l'effet de la gravité, etc., qui fait qu'il y a une distribution inégale du matériel qui se trouve dans ces embryons. Et en fait, cette distribution, en quelque sorte, préfigure l'origine des feuillets embryonnaires. C'est-à-dire, tout ce qui est endodermique va venir du bas, et je pense qu'on peut voir pourquoi, en fait, la couleur jaune a été choisie comme couleur générique pour qualifier l'endoderme, parce que si vous regardez une ponte de rana ou au printemps, c'est un peu tard maintenant, mais dans les bois, vous verrez qu'en fait, les œufs ont une coloration un peu différente qui est plus faible vers le bas. Donc, je pense que c'est l'origine du choix de cette couleur un peu jaune, qui est la couleur du vitellus, en fait. Hein. Donc, on a cette partie endodermale. On a une partie au-dessus qui va devenir l'épiderme, l'ectoderme, la peau, le système nerveux dorsal. Et puis, une sorte de bande au centre qui va devenir le mésoderme. Si vous regardez l'embryon, vous ne verrez pas de bande rouge, évidemment, mais les cellules qui sont dans cette partie sont déjà, en quelque sorte, engagées ou soumises à des signaux qui font que ces cellules vont devenir du mésoderme. Voilà. Donc, l'équation est simple. On conserve, puisque les cellules ne bougent pas, jusque-là, elles se divisent, hein, donc on fait plus petit. Donc, les cellules ne voyagent pas. Sauf à ce moment-là, où il va falloir passer de ces trois couleurs horizontales à une structure qui va permettre la morphogenèse, autrement dit la structure finale avec le jaune à l'intérieur, le rouge autour et le bleu qui entoure le tout. Et c'est à ça que sert la gastrulation. C'est comment transformer ces trois lignes en trois cercles concentriques. Et la façon dont ça se fait, alors je prenais l'image de ce ballon de football dégonflé qu'on essaie de rentrer, ben c'est ce que vous voyez ici. Il y a un point d'entrée, et donc il va y avoir toute cette partie-là, ici, qui va descendre, rentrer par ce point et remonter à l'intérieur, le rouge. Hein. Peu à peu, le bleu va couvrir l'ensemble en rentrant à l'intérieur. Vous imaginez une sorte de descente. Chez les poissons, c'est encore plus manifeste. C'est un phénomène qu'on appelle l'épibolie. Donc, toute la partie ectodermique va descendre et englober le reste pour qu'à la fin, on arrive avec cette structure-là, l'ectoderme à l'extérieur, l'endoderme à l'intérieur et puis le mésoderme qui fait cette couche intermédiaire. À partir de là, tous les organes, toutes les glandes peuvent être assignées à une origine particulière. Alors, vous voyez ici une image que j'avais déjà montrée, si ça vous intéresse, je vous rappelle en passant que toutes ces images sont déposées sur le site du collège, si vous voulez les retrouver. On voit ici tout ce qui dérive de l'ectoderme, la peau, le système nerveux, les récepteurs sensoriels, etc., l'épiderme, tout ce qui dérive de l'endoderme, le foie, le pancréas, le thymus. Attention, il y a des cellules là-dedans qui vont venir du mésoderme, ne serait-ce que les cellules sanguines, puisque le sang vient du mésoderme, en rouge. Hein? Donc dans chaque organe, vous allez avoir du sang, donc vous allez avoir un mélange de cellules d'origine différente. Les animaux par lesquels le point de gastrulation terminera en bouche, on les appelle les protostomes. Et les animaux dont le point d'entrée de gastrulation terminera en anus, on les appelle en gros les deutérostomes. Donc nous sommes des deutérostomes et c'est une des grandes classifications des animaux. Soit des animaux qui s'internalisent pendant la gastrulation en créant plus tard une bouche au bout, comme nous, les deutérostomes, ou les animaux qui, en s'internalisant, vont créer la bouche, les protostomes. Parmi les deutérostomes, les chordés, les oursins, donc les animaux qui sont proches de nous, et puis les protostomes, évidemment, les arthropodes, les mollusques, etc. Alors évidemment, contrairement aux amphibiens, nous ne gastrulons pas exactement de cette façon, mais notre tâche, la tâche de nos embryons, c'est d'établir ces trois couches avec comme challenge alors encore plus compliqué, qui est en même temps d'organiser les annexes extra-embryonnaires. Et ça, c'est vraiment le problème des mammifères, parce que là, on est dans un milieu aquatique, il y a une gangue autour, on ne s'occupe pas de faire un amnios, on ne s'occupe pas de faire des annexes, de s'implanter. On se développe et puis on nage. Chez les mammifères, c'est différent. Il va falloir séparer d'un côté ce qui va donner l'embryon, mais une grande partie de ce qu'on appelle l'embryon ne va pas faire de l'embryon. Cette partie va faire les annexes embryonnaires. C'est pour ça qu'il y a des discussions très intéressantes lorsqu'on fait un diagnostic préimplantatoire, par exemple. On peut dire, oui, mais vous prenez une cellule d'un embryon de 8 cellules. Mais non, on prend une cellule de quelque chose qui n'est pas encore un embryon. La majorité de ces cellules ne donneront pas d'embryon. Elles donneront des annexes embryonnaires. Or, le placenta n'est pas protégé par la loi. Donc, discussion très intéressante sur ce point-là. Alors, comment cela se fait? Eh bien, c'est plus compliqué. Vous voyez ici ce que je vous disais tout à l'heure. On a un embryon humain qui est juste en train de gastruler, puisqu'il y a déjà du mésoderme ici en dessous de l'épiblaste. Et quand on le regarde de dessus, on a cet aspect, vous vous souvenez, je vous montrais la semaine passée comment l'embryon de poulet fermait son tube neural. Bien, on a cet aspect un peu en disque, comme ça. Et donc les cellules, plutôt que de rentrer dans un ballon, vont passer à travers cette ligne ici qu'on appelle la ligne primitive, primitive streak, ici. Et les cellules vont descendre et former du mésoderme à l'intérieur, plus tard de l'endoderme. Et donc on va avoir ces trois couches qui vont se former de cette façon. Elles sont beaucoup plus compliquées que chez les amphibiens. Et les trois feuillets germinatifs vont dériver de cet épiblaste ici, qui va produire de l'ectoderme, du mésoderme, puis de l'endoderme. Mais vous voyez que tout ce qu'il y a autour ici, par exemple, cet ectoderme amniotique, ne va pas faire de l'embryon. Il y a de l'endoderme extra-embryonnaire, il y a du mésoderme extra-embryonnaire, et il y a de l'ectoderme extra-embryonnaire. Par exemple, les cellules qui vont faire la poche dans laquelle l'embryon va se développer, l'amnios, cette poche des os, finalement, qui va se rompre à la naissance, eh bien, ce sont ces cellules-là qui sont en grande partie de l'ectoderme amniotique. C'est donc un embryon qui est assez différent de l'embryon de souris, puisque l'embryon de souris va pousser comme un cylindre, hein, non pas comme un disque. Et ceci non seulement au niveau de la disposition des tissus, comme je vous le montre ici, mais également au niveau de leurs origines et des linéages. Et ça, c'est beaucoup plus surprenant. C'est que certains de ces types cellulaires n'ont pas les mêmes origines. Qu'on les prenne chez la souris, qu'on les prenne chez les humains. Et je vous montre un exemple ici d'une étude récente. C'est cette publication ici de 2021 qui a été commentée en fait dans le journal Nature par ce commentaire. Et ce qui a été fait ici, finalement c'est assez simple, c'est de prendre ces embryons, de faire des cultures, une suspension cellulaire, donc de dissocier les cellules, donc on a un paquet de cellules, et puis de faire du séquençage d'ARN en cellules uniques. On en a beaucoup discuté l'année passée, j'en reparlerai un tout petit peu en détail au cours suivant, parce que ce n'est pas intéressant pour ce que je veux dire aujourd'hui. Mais ça vous permet de caractériser chaque cellule de cet embryon par son contenu en ARN. Donc après, vous pouvez faire du regroupement, souvenez-vous, du clustering de cellules. On peut demander à un logiciel, donne-nous une carte de proximité des cellules selon leur quantité, leur qualité d'ARN. Et donc on voit que si dans un espace qu'on va créer, si deux cellules sont très proches de par leur qualité d'ARN, eh bien ces cellules sont soit du même tissu, soit vraiment viennent de diverger, etc. Si elles sont très éloignées, voilà. Eh bien, en faisant cette analyse, ces gens-là se sont aperçus qu'en fait, les cellules de l'ectoderme amniotique, ici, sont très très semblables chez l'humain aux cellules de l'ectoderme embryonnaire. C'est comme si, en fait, une partie de l'ectoderme de l'embryon, à un moment donné, se dit « Oui, mais attention, il faut que je fasse un amnios. Hein. Je ne peux pas faire que de l'embryon. Ça va pas aller, donc il faut que je fasse un amnios. » Il y a une partie qui se différencie pour faire cette paroi qui va contenir l'embryon. Chez la souris, totalement différent. Chez la souris, les cellules qui vont tapisser la cavité amniotique ne dérivent pas de l'ectoderme de l'embryon. C'est une autre provenance. Donc là encore, on voit ce phénomène qu'on peut qualifier peut-être d'homoplasie, peu importe finalement, mais ce phénomène qui consiste à arriver à un résultat comparable par des chemins différents. Alors on se dit, bah, bon, si on arrive à un résultat comparable, pourquoi? Oui, parce que c'est absolument essentiel de comprendre comment on arrive pour une espèce comme la nôtre, si on souhaite peut-être améliorer ces processus, comme on discutera sur la fin de ce cours. Alors, comment étudier ces caractéristiques qui sont uniques à l'embryon humain? Comment, par exemple, étudier cet exemple-là? d'une façon expérimentale, comment puis-je élaborer une expérience, un protocole expérimental qui me permette de comprendre, par exemple, à quel moment cette distinction se fait, quels sont les gènes qui vont faire cette distinction, etc. C'est évidemment très compliqué chez l'embryon humain. Et il y a en fait deux possibilités qui évidemment peuvent être combinées. La première, c'est d'améliorer les conditions de culture des embryons d'une façon telle qu'on puisse passer à travers la gastrulation. Donc on puisse, au long de toutes ces étapes, suivre des embryons et essayer de comprendre ce qui se passe. Deux problèmes, trois je dirais même. Le premier, c'est que ça requiert des développements technologiques importants, parce que l'embryon se développe quand même pendant la gastrulation en étant implanté, donc dans un milieu vraiment protégé dans la muqueuse utérine de la mère. Est-ce qu'on peut shunter ce passage? Est-ce qu'on peut trouver des conditions de culture qui nous permettent de faire ça ex utero? Deuxième problème, cela requiert également l'utilisation d'embryons humains surnuméraires. Ou même, encore plus compliqué, des embryons qui seraient produits dans ce but. C'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas autorisé par la loi. Et même si l'on pouvait parfois utiliser, si l'on peut parfois utiliser un embryon surnuméraire, il y a des limites de temps pendant lesquelles on peut le garder, qui sont fixées, etc. Ce qui ne permet pas de voir où cet embryon va. Parce que, évidemment, lorsque l'on fait une intervention, lorsqu'on essaie de comprendre un mécanisme chez l'embryon, un mécanisme qui se passe au jour J, il ne suffit pas d'avoir un embryon au jour J. Il faut qu'on ait l'embryon au jour J, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, pour voir le résultat de l'intervention, pour voir ce qu'on a fait à cet embryon. Strictement impossible chez les humains, bien évidemment. L'alternative, elle est simple. C'est de produire des structures biologiques, des pseudo-embryons, des embryoïdes, aussi proches que possible de ces embryons, sans passer par une fertilisation entre gamètes, en utilisant des cellules souches embryonnaires. J'ai mis ce soir deux extraits de Brave New World, de Aldous Huxley, qui est un livre, peut-être certaines d'entre vous l'ont lu il y a longtemps. Dans le contexte actuel, je recommande de le lire. C'est un livre totalement étonnant du point de vue de l'anticipation et assez déprimant par ailleurs. Alors aujourd'hui, grâce au travail principalement d'un laboratoire à l'Institut Weizmann à Tel Aviv, il est possible de littéralement cultiver ces embryons d'un stade pré-implantation à un stade post-implantation. Et c'est un vrai tour de force qui a été réalisé par cette équipe. Vous voyez, en 2021, les conditions ont même été améliorées aujourd'hui par cette équipe de Jacob Hanna, qui d'ailleurs sera là au colloque le 7 juin. Et le principe de base, en fait, c'est développer de façon totalement empirique, bien entendu, parce que c'est vraiment une discipline dans laquelle il faut tout essayer. Autrement dit, il faut essayer chaque traitement 0,5, 0,8, 0,9, 11, 13, et puis chaque concentration d'oxygène, concentration de glucose, chaque élément doit être pris de façon empirique pour voir quelles sont les conditions qui permettent quoi. Et vous voyez ici, j'ai mis toute une série de paramètres critiques. Et l'important, c'est deux choses qui sont vraiment importantes. La première, c'est qu'on passe d'un système statique à un système rotatif. Donc ces embryons, à un certain moment, ont besoin de bouger. C'est pour ça que j'ai mis la citation de Brave New World, où toutes les deux semaines, je ne sais plus, on va secouer les embryons pour les habituer au mouvement. En fait. Là, ce n'est pas pour les habituer au mouvement, mais il faut que ces embryons bougent. Et vous voyez que les conditions sont en perpétuelle évolution. Et c'est à cause de cela que il y a un besoin pour d'une technologie qui est assez avancée, en fait. C'est pas simple du tout de faire ça dans son laboratoire. Ce sont des machines. Il faut vous imaginer que ces embryons vont croître. Il faut les garder dans des milieux appropriés. Et puis, il faut avoir accès. Hein, imaginez qu'on ne peut pas venir le matin et puis pipeter quelque chose. Il faut quelque chose d'automatisé. Vous voyez ici, par exemple, en démarrant d'un embryon à 7 jours 5, aujourd'hui, ce groupe peut même démarrer à 5 jours 5, donc bien avant l'implantation. On voit que les conditions d'oxygène, on est à 5% le premier jour, 13% le deuxième jour, 18% le troisième jour, 21% le quatrième jour. Pourquoi ces pourcentages empiriques? C'est simplement de l'essai, ça marche, ça ne marche pas, on en met un peu plus, on en met un peu moins. Ce système de culture a permis de franchir vraiment ce bloc de la gastrulation. Et on pensait, je ne vais pas faire trop d'histoire, mais je me souviens, étant étudiant dans les années 80, en faisant ma thèse, il y avait déjà un bloc entre l'œuf fertilisé et le 2 cellules. C'était extrêmement compliqué de passer d'un œuf fertilisé d'avoir le premier clivage qui donne les 2 cellules. Aujourd'hui, vous voyez ici le résultat, on part ici d'un embryon de 6 jours.5, juste après l'implantation, mais on peut aussi démarrer d'un embryon de 5, vous voyez ici, 5.5. Et voilà le résultat. On passe à travers la gastrulation et on arrive à ce fœtus ici, qui n'est pas un vrai embryon, qui est un embryoïde, hein, mais qui est un embryoïde non pas dérivé de cellules ES, dérivé d'un vrai embryon. Alors on peut discuter, est-ce que en partant d'un vrai embryon et en le cultivant 5 jours dans ces conditions, on obtient un vrai embryon? C'est important l'aspect sémantique dans ce cas particulier. Ou si les conditions de culture sont telles qu'on est déjà sur un embryoïde. C'est des discussions qui sont assez théoriques. Sur le bas ici, vous voyez en fait la même série d'embryons que sur le haut, mais à l'échelle. C'est absolument stupéfiant. Vous voyez ici le point de départ, et là on est à jour 6.5. Si je vous montrais à jour 5.5, ce serait encore plus stupéfiant. Et après 5 jours de culture, voilà ce qu'on obtient. Tout cela sans utérus. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce point précis, mais c'est tout de même un point totalement extraordinaire, parce que ça vous montre une fois de plus à quel point l'embryon est capable de se prendre en charge, de s'auto-organiser, de produire ses structures pratiquement sans erreur. C'est tout à fait remarquable. En fait. Mais bien entendu, dans ce cas-là, on part d'un embryon. Inutile de vous dire que tout cela, c'est de la souris, évidemment. On ne pourrait pas faire ce genre d'expérience avec des embryons humains. Alors, pour les faire avec des embryons humains, comment faire? Quel matériel utiliser pour essayer d'arriver à un tel stade de développement sans utiliser d'embryon humain? Et c'est là qu'on retombe sur les cellules ES, les cellules souches et les cellules iPS. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais simplement passer 5 minutes à rafraîchir les bases minimales nécessaires. Puis, vous parlez simplement de l'histoire de ces cellules, parce que je la trouve très intéressante, en fait. Je dirais que tout commence dans les années 50-60. Leroy Stevens, qui est un Américain qui d'ailleurs s'était battu en Sicile aux côtés de Patton à la fin de la guerre, revient aux États-Unis pour faire une thèse et fait sa thèse sur une île qui s'appelle l'île du Mont Desert, Mount Desert Island, qui est tout au nord des États-Unis dans l'état du Maine, Et pourquoi une île perdue? Parce que des industriels de Détroit, à l'époque, avaient décidé de financer un laboratoire pour étudier l'effet des radiations, on est dans les années post-guerre, sur le cancer. Et donc, c'est en grande partie à cause de cela que ce laboratoire qui est devenu le laboratoire Jackson, le Jackson Lab, pour les, est devenu un peu la mecque de la génétique de la souris parce que, en grande partie, c'est dans cet endroit perdu que se sont développées les souches consanguines de souris qui ont fait l'incroyable valeur de ce système pour la génétique du développement et pour la génétique en gros. Parce que les souris survivent, vivent très bien d'ailleurs, à l'état consanguin. Ce qui permet de faire des expériences génétiques, physiologiques, parce que vous pouvez faire des groupes contrôles, des cohortes, vous savez que toutes ces souris sont pratiquement identiques les unes aux autres. D'accord ? Alors, Roy Stebbins, il travaille sur autre chose et puis il remarque un jour une souris qui a une tumeur dans les testicules. Et avant d'analyser cette tumeur, il va croiser cette souris et puis il va obtenir une lignée. Et cette lignée va être sélectionnée, resélectionnée, jusqu'à produire pratiquement, je ne me souviens plus exactement du titre, voilà 10%. Vous voyez, 10% de ces souris produisent des tumeurs testiculaires. Alors, ce sont des tumeurs des cellules germinales. Et c'est pour ça que c'est le début de l'histoire des cellules ES, en fait, des tumeurs des cellules germinales, qui aujourd'hui s'appellent, la lignée s'appelle 129SV-TER, SV pour Stebbins, et TER pour teratomas, c'est le nom qu'on donne à ces tumeurs, des teratomes, quand ces tumeurs sont bénignes, des teratocarcinomes, quand ces tumeurs sont malignes. Ces teratomes, en fait, sont assez spectaculaires, dans le sens où, comme ce sont des tumeurs d'origine germinale, des cellules germinales, des cellules qui plus tard vont donner des spermatozoïdes, ben, ces tumeurs produisent des sortes d'embryons totalement désorganisés. On y trouve des cheveux, des dents, chez les humains aussi, hein, ça, c'est des tumeurs qui existent, bien entendu. On va y trouver toutes sortes de tissus, vous voyez ici, hein, des mélanges de tissus conjonctifs, d'os, de muscles, peu importe. Et à partir de ces tumeurs vont être isolées des cellules, souches de ces tumeurs, que l'on va appeler ECC, Embryonal Carcinoma Cell, donc des cellules de carcinome embryonnaire. C'est des cellules, c'est ces cellules-là qui ont aidé à développer tous les outils qui vont être utilisés 10, 20, 30 ans plus tard, lors de la production des cellules souches embryonnaires. C'est des cellules qui se ressemblent finalement, puisque d'un côté on a des cellules souches qui dérivent de cellules germinales, et puis de l'autre on a des cellules ES qui dérivent de l'épiblaste d'un blastocyste, donc des cellules qui ont beaucoup de potentiel. En parallèle, j'ai noté ici, en France, François Jacob à l'Institut Pasteur qui s'est emparé de ce modèle, et puis en parallèle le développement de l'embryologie des mammifères, je dirais en grande partie en Angleterre, grâce à des expérimentalistes très compétentes, qui tout cela a conduit à la fois à la naissance de Lewis Brown, les premiers à avoir fait une IVF avec succès, hein, ça s'est passé en Angleterre, et puis à la dérivation des cellules ES, également passée en Angleterre. Alors les cellules ES, vous vous souvenez, ce sont ces cellules-là. Vous avez un blastocyste. À ce stade, ce blastocyste, donc c'est celui-ci maintenant avec, qui a gonflé, il a pompé de l'eau, il est juste avant l'éclosion. Ce blastocyste, en fait, a deux linéages cellulaires. Il y a les cellules de la masse interne, ici, les cellules de l'épiblaste. Et puis, il y a les cellules autour, qui sont les cellules du trophectoderme. Deux linéages cellulaires. Les cellules de l'épiblaste sont multipotentes parce qu'elles peuvent faire l'embryon, mais elles ne sont pas totipotentes parce qu'elles ne peuvent pas faire, chez la souris, d'autres trophectodermes, puisque le trophectoderme et les cellules de la masse interne dérivent de mêmes ancêtres. Donc ces cellules-là ne peuvent pas refaire du trophectoderme. Donc elles sont totipotentes. Mais strictement parlant, elles ne sont pas multipotentes, ne sont pas totipotentes. Ces cellules chez la souris, en fait, se développent en clones. On peut les faire pousser sur un tapis de cellules nourricières. On voit ici ces cellules-là qui ne se divisent pas, qui ne sont pas mortes, qui donnent une sorte de tapis sur lequel ces cellules poussent. Et on voit chaque petit clone est en fait une cellule ES qui s'est développée en clone. Donc on va avoir 30, 100, 150, 200 cellules qui forment un clone de la même cellule ES. D'accord ? Ces cellules ES, elles viennent sous deux formes différentes. Et là, c'est vraiment important pour ce que je vais vous dire sur l'humain tout à l'heure. Il y a des cellules naïves qui sont vraiment un état naïf. On appelle ça des « naive cells », qui sont vraiment similaires à des cellules de la masse cellulaire interne, donc de ces cellules que je viens de vous montrer à peu près dans un blastocyste de 4 jours et demi chez la souris. Ces cellules, elles sont cultivées en présence d'un cocktail de chimie qui, je ne sais pas jusqu'à quel point, il faut que je rentre dans les détails, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un cocktail qui contient plein d'inhibiteurs. Parce que l'idée, c'est que ces cellules sont totipotentes, multipotentes. On veut garder cette potentialité. Or, ces cellules n'ont qu'une envie, c'est de faire ce qu'elles font dans l'embryon, c'est-à-dire de se différencier. Et donc, tout le génie des gens qui ont réussi à maintenir ces cellules en culture sans qu'elles se différencient a été de trouver justement des éléments, des cytokines, qui permettent d'empêcher cette différenciation. C'est tout. 3 prix Nobel pour ça. Et donc l'idée, c'est d'inhiber toutes les voies possibles et imaginables, c'est pas le cas ici, mais c'est une simplification, de tout ce qui pourrait apporter un signal qui dirait aux cellules « il faut faire ça maintenant, il faut faire ça ». On met des inhibiteurs. On inhibe tout ce qu'on peut. Alors vous voyez qu'il y a ici des inhibiteurs d'une kinase qui s'appelle MEK, c'est les MAP kinases, les ERK kinases à l'époque, on les appelait comme ça, qui sont impliqués dans la croissance cellulaire, qui répondent au FGF et tout. On ne veut pas de ça, donc on inhibe. Un inhibiteur de la GSK3, qui est une kinase impliquée dans très nombreuses voies métaboliques de la cellule. On ne veut pas que la cellule ait un métabolisme particulier, etc. Donc on inhibe. Et en inhibant de cette façon, on arrive à conserver ces cellules dans un état de potentialité maximale jusqu'au moment où on décide de lâcher. Donc on va jouer avec ces inhibiteurs sans inhibiteurs, pour passer un peu de temps avec des inhibiteurs, pour que les cellules commencent à... etc. Puis à un moment donné, on va en mettre un autre ou en enlever, et puis on va partir dans une voie plutôt que dans une autre. C'est ça, en fait, le schéma de base. Après, si vous vous intéressez vraiment aux détails, je vous laisse aller au PowerPoint. Mais ce milieu 2I, qu'on va rencontrer quelques fois dans ce que je vais dire par la suite, c'est simplement un milieu qui contient deux inhibiteurs. C'est un milieu qui a été développé il n'y a pas si longtemps, en fait. Cet inhibiteur de MEK, cet inhibiteur de la GSK3, et c'est un milieu vraiment extraordinaire qui permet de garder ces cellules avec une très très grande potentialité. L'autre état, c'est ce qu'on appelle des cellules amorcées. C'est des cellules qui correspondent à de l'épiblaste, mais déjà au moment où c'est implanté, où il se passe quelque chose. Donc c'est des cellules qui ont moins de potentialité, mais qui sont toujours capables de faire beaucoup de choses. Comment peut-on... Alors, je vous montre ici, en fait, une différence assez intéressante entre des cellules ES, des cellules souches embryonnaires de souris, et des cellules souches embryonnaires humaines. Et en fait, ces deux types de cellules, qui correspondent les deux à de l'épiblaste précoce, finalement, vous voyez qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Et en fait, elles ne se cultivent pas de la même façon. Donc ce sont des protocoles de culture différents, voyez que les cellules, par exemple, de souris font des petits dômes. On voit très bien des petits dômes comme ça. Alors que les cellules ES humaines, généralement, sont plutôt plates. Pourquoi ? On n'en sait rien. Ces potentialités, comment peut-on les évaluer ? Parce que, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, lorsque l'on veut évaluer ce qui se passe au temps à T5, il faut qu'on ait à T10. Autrement, on ne peut pas voir. Je vous dis ici que ces cellules-là sont multipotentes. Oui, mais comment le montrer ? Qu'est-ce que je peux vous montrer pour vous convaincre que ces cellules humaines sont totipotentes ? Chez la souris, il y a en fait deux grands systèmes qui ont été développés, deux façons d'évaluer in vivo la potentialité de ces cellules. La première, c'est de prendre ces cellules, de les mettre en suspension, de faire un culot et d'injecter ça dans un animal, une souris, par exemple dans les testicules, dans la capsule rénale. Et si on fait ça, on va avoir une tumeur. Et puis on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la tumeur. On va trouver si c'est une tumeur qui est totalement homogène, où il n'y a que du tissu connectif, on dira que ces cellules ne sont pas très potentes, en fait. Si on a une tumeur de type tératome, tératocarcinome, plein de cellules différentes, un morceau de dent, un peu, on se dira, ben voilà, ces cellules-là ont une potentialité très élevée. Et voilà, ça c'est typiquement un tératome qui est induit avec du tissu nerveux, du cartilage, de l'épithélium intestinal, de l'épithélium pulmonaire. On se dit, voilà, ces cellules sont... Mais là encore, on retombe sur cette notion d'auto-organisation parce que ces tissus sont bien organisés. Ils ne font pas un embryon dans la tumeur, Mais l'épithélium va faire des belles rosettes, on va avoir des morceaux, etc. Ce n'est pas du tout une sorte d'anarchie de cellules de types différents qu'on va trouver dans tous les coins. La deuxième façon, développée dans les années 70, qui est évidemment beaucoup plus subtile, mais beaucoup plus compliquée, c'est de prendre ces cellules ES, à l'origine c'était des cellules EC, mais de prendre ces cellules ES et de les mélanger avec une morula pour faire ce qu'on appelle un animal mosaïque ou allophénique ou chimérique. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est pas ce que je vous raconte, c'est l'agrégation de deux morulas. Chez la souris, vous pouvez prendre une morula d'une souris blanche, une morula d'une souris noire, et puis vous collez ces deux morulas ensemble, et puis assez rapidement, ça va faire une grosse morula, qui sera ici, voilà, de cellules mélangées. Ces cellules, curieusement, bien qu'elles soient en nombre le double d'un embryon normal, elles vont parfaitement réguler, parce que l'embryon mammifère est un embryon de type régulatif, comme on l'appelait dans le passé. Hein. C'est-à-dire que cet embryon, en fait, est capable de voir où il en est. Hein. S'il y a trop de cellules, on va s'arranger. S'il n'y en a pas assez, on va en faire d'autres. Hein. Il y a donc des systèmes de contrôle qui permettent de réguler. Donc on va obtenir un embryon de ce genre qu'on va réimplanter dans une mère porteuse et puis ça va donner naissance à une souris qui sera chimérique, donc qui sera en fait faite de quatre parents, si vous voulez. Mais chacune des cellules ne sera que de deux parents. Hein, ça va être un mélange de cellules blanches avec un mélange de cellules noires. Et c'est pour ça qu'on obtient ces bandes ici, parce que ça dérive de la crête neurale, toute la pigmentation des poils. Donc on va avoir des bandes qui montrent que cette souris est un mélange. Au lieu de faire ça avec deux morulas, on peut faire ça avec une morula et des cellules ES. D'accord ? Donc on peut agréger des cellules ES à une morula, retransférer la souris et voir si on obtient une souris chimérique. Si on obtient une souris chimérique, on peut croiser cette souris. Si cette souris-là a des cellules qui viennent des cellules ES dans la lignée germinale, elle va faire des petits qui seront 100% dérivés des cellules ES. D'accord ? Donc là, les petits ne sont pas chimériques, évidemment, c'est impossible. Ce seront soit des petits blancs, soit des petits noirs. Évidemment, si on obtient des petits qui sont intégralement dérivés des cellules ES, c'est la démonstration la plus formelle que ces cellules ont une potentialité totale. Alors évidemment, comment faire ça avec les cellules humaines? Là encore, rigoureusement impossible. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on parle de cellules souches humaines ES, on en parle de façon anticipée. Tout le monde pense qu'on pourrait obtenir les mêmes choses, mais évidemment, on ne peut pas le démontrer pour l'instant. Cellules iPS, une façon d'alléger un peu ce travail, cette découverte dont je vous ai déjà souvent parlé de Yamanaka à la fin des années 2000, sauf erreur, au début des années 2000, 2006, cellules de souris, 2007, cellules humaines. Alors ces cellules iPS sont évidemment extrêmement importantes lorsque l'on touche à la fabrication de pseudo-embryons humains, parce que ces cellules ne dérivent pas de la fertilisation, ne dérivent pas d'un embryon, mais dérivent d'une biopsie. Vous pouvez vous-même faire une petite biopsie de peau et obtenir des cellules qui ressemblent beaucoup à des cellules ES en introduisant dans ces cellules quatre gènes qui vont fabriquer quatre protéines, qui sont des protéines capables de remettre les cellules à l'heure, donc de changer l'épigénétique de ces cellules pour en refaire des cellules souches. Alors évidemment, beaucoup d'avantages à ces cellules iPS. Vous voyez ici un exemple de neurone dopaminergique produit à partir de cellules iPS. Beaucoup d'avantages dans le sens légal, dans le sens éthique, puisque ces cellules, forcément, peuvent avoir un consentement, on peut travailler avec, mais ce ne sont pas des cellules ES. Alors c'est de cela que nous allons parler, de l'utilisation de ces cellules pour fabriquer des embryons. Et je dois dire que depuis 5-6 ans, c'est des études qui ont vraiment fait grand bruit dans les médias. On sent que c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Ça déclenche beaucoup de réactions. Il y a évidemment une volonté compréhensible des scientifiques eux-mêmes à vendre en quelque sorte leur travail quand celui-ci peut leur apporter du financement, de pouvoir continuer. Il y a également un intérêt de la presse, qui est un intérêt souvent qui déborde le côté scientifique, et qui est rarement à l'avantage des uns et des autres, pour parler par litote. Je pense en particulier à cette couverture qui illustre le fameux tableau de Magritte, qui ne concerne pas du tout la ressemblance entre un embryon et un pseudo-embryon, mais qui concerne la représentation qu'on a d'un objet par une image, en fait. C'est quelque chose qui est très différent. Mais peu importe. Donc, pour faire un point un peu critique de ce qui est possible aujourd'hui, je vous le disais la semaine passée, j'ai donc choisi trois exemples qui traitent vraiment, me semble-t-il, des trois modèles actuels qui sont les plus développés, les plus utilisés. Donc, le premier, c'est ce que nous appelons des blastoïdes. Ce sont donc des pseudo-embryons qui correspondent à ce stade, au stade de blastocyste. Deuxième modèle, ce sont les gastruloïdes. Ce sont des pseudo-embryons qui représentent, je dirais, une partie tronquée d'un embryon en fin de gastrulation, et on verra pourquoi on utilise cette structure tronquée. Et puis finalement, l'embryon intégré, qui est la forme la plus aboutie, où l'idée est vraiment de pouvoir reproduire, en fait, produire un pseudo-embryon en culture, en partant du plus tôt possible, pour arriver le plus tard possible. Voilà. Alors, les blastoïdes, eh bien, deux types cellulaires. En 2018, j'avais eu l'occasion de faire un cours sur les organoïdes, et la dernière leçon de ce cours, je l'avais consacrée aux embryoïdes. C'était quelque chose de très nouveau, en fait. Et j'avais présenté cette publication de 2018, qui venait de sortir à l'époque, du laboratoire de Nicolas Rivron, à Vienne, qui est la personne qui a vraiment développé ce système des blastoïdes. Et j'en avais parlé un peu comme d'une nouveauté, finalement, en posant la question à la fin, est-ce qu'on pourra un jour faire ça avec des cellules humaines? Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc, une fois de plus, je précise, blastocyste, deux couches cellulaires, une couche qui entoure le trophectoderme, une couche à l'intérieur, une petite boule à l'intérieur, la masse cellulaire interne. Alors, il va s'agir de cette publication de 2022. Et cette publication est vraiment extrêmement intéressante car elle n'utilise que des cellules ES comme point de départ. Or, certains d'entre vous se souviennent peut-être que pour faire des blastoïdes chez la souris, ce n'est pas suffisant. Je vous disais tout à l'heure que les cellules ES chez la souris ne sont pas multipotentes, sont incapables de faire du trophectoderme. Et donc, pour faire ces blastoïdes chez la souris, je vous avais décrit en 2018 qu'il fallait utiliser une deuxième source de cellules, qui étaient des cellules de trophectoderme. Alors, comment produire des cellules de trophectoderme in vitro? Eh bien, c'est une recette qui avait été développée déjà en 1998 par Janet Rossand, qui est la même personne dont j'ai utilisé cette publication la semaine passée pour vous faire cette liste de justificatifs. Et ce qu'avait remarqué le groupe de Janet Rossand, c'était que, en fait, en traitant ces cellules avec du FGF4, avec une cytokine particulière, elles pouvaient produire des cultures de cellules qui ressemblaient beaucoup à des cellules du trophectoderme. Donc on avait d'un côté des cellules ES, de l'autre côté des cellules du trophectoderme, et le laboratoire de Nicolas Rivron a mis au point un protocole à l'époque qui consistait à mélanger ces deux types cellulaires dans des proportions différentes jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne proportion et les bons milieux de culture pour essayer d'obtenir quelque chose. Et cette chose dont vous voyez ici, c'était ce mélange entre ces cellules de trophectoderme et ces cellules ES. On les colle ensemble, à peu près 5 cellules ES par cuvette, on rajoute les cellules du trophectoderme, on voit qu'il y a une induction d'un cyste, et dans à peu près moins de 1% des cas, retenez juste ce chiffre, moins de 1% des cas, on obtenait des cellules qui s'organisent en cystes avec des cellules ES à l'intérieur. Et on voit ici cette image avec ces blastoïdes ici qui sont comparés aux blastocystes de souris. Alors évidemment, si vous regardez ça, il n'y a pas photo. Les blastocystes sont plus beaux, ils sont plus nets, ils sont plus lisses. On voit que ce sont des pseudo-blastocystes, des blastoïdes ici. Mais ce sont quand même des structures vraiment étonnant, très bien organisé. Et je vous montrais encore une fois, il y a 5 ans, 6 ans, que cette masse cellulaire interne, à l'intérieur, exprimait un gène qui s'appelle NANOG et OCT4, qui sont des gènes vraiment typiques de la pluripotence de ces cellules. Donc vraiment une structure qui ressemblait à beaucoup d'égards à des vrais blastocystes. Je pense qu'à l'époque, j'avais oublié de dire une chose. Je vais donc me rattraper 6 ans plus tard, une chose qui est très importante en fait, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux objets ici, qui est une différence qui n'est pas visible, mais qui est une différence génétique. Parce que ces blastoïdes sont des clones. Ces blastoïdes dérivent tous de la même cellule ES, de la même culture de cellules ES et des mêmes cultures de cellules trophectodermes. Donc ce sont des clones, ce sont des vrais jumeaux, mais des vrais XMO, je ne sais pas comment on peut les appeler, des clones. Alors qu'en fait, sur la droite, vous avez ici une fratrie. Donc chacun de ces blastocystes, aussi ressemblants qu'ils soient les uns aux autres, sont en fait uniques d'un point de vue génétique. C'est le résultat d'un croisement entre un mâle souris et une femelle souris. Et évidemment, c'est très important de réfléchir à ce point précis. Si un jour on se projette, comme je l'ai fait ici, on se projette dans une dystopie future, on se dirait, ben voilà, ce seront des clones. C'est donc en 2022 qu'est publié ce protocole, ce nouveau protocole, et en fait, la grande surprise, c'est le point que je viens de vous mentionner, en fait, c'est que chez les humains, tout peut être fait avec des cellules ES au départ. Pas besoin d'aller chercher des cultures de cellules de trophectoderme. On peut tout faire avec les mêmes cellules. Alors, les deux conclusions majeures de cette étude, avant que je rentre un tout petit peu dans les détails, sont celles-ci. Des cellules ES humaines, cette fois, et IPS, cultivés dans un milieu PXGL, complémentés ci-dessus, etc., peuvent générer des blastocystes à une fréquence de 70% avec les trois lignages attendus. Souvenez-vous avant, combinaison de deux lignages différents en dessous de 0,5%. Là, on a un seul type cellulaire. Tout va se jouer non pas sur les mélanges, mais sur les milieux, sur ce qu'on va mettre dans ces cultures. Et on va arriver à une fréquence de production de blastoïdes très élevée. Et puis deuxièmement, alors, de façon très étonnante, et je vais vous montrer ça dans quelques minutes, ces blastoïdes peuvent s'attacher de façon spécifique, directionnelle, par le bon bout, à des cellules d'endomètre, des organoïdes d'endomètre utérin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, ces blastoïdes humains ont très, très vraisemblablement la capacité de s'implanter dans une muqueuse utérine. Alors, ce milieu PXGL, bon, encore une fois, je ne vais peut-être pas trop vous ennuyer avec ça, mais c'est un milieu classique avec des inhibiteurs, toujours des inhibiteurs de la voie MEK, toujours la même voie, mais également de la voie WNT, on en a beaucoup parlé aussi. WNT, c'est une voie de signalisation qui est extrêmement importante pendant le développement précoce. On en trouve partout où les choses importantes se passent, finalement. On ne veut pas que les choses importantes se passent là. On veut attendre. Hein. Donc on inhibe. Et puis un inhibiteur de la protéine kinase C, et puis le LIF. Bref, des mélanges, comme d'habitude, de façon empirique. Empirique, encore que, on se doute bien que si peut-être on devrait essayer d'inhiber cette voie particulière, donc on va essayer, c'est pas totalement empirique dans le sens où on ne va pas mettre n'importe quoi en attendant que ça se passe. Et puis en plus, des inhibiteurs de la voie HIPPO, qui est une voie de signalisation qui s'occupe de la taille des organes, inhibiteurs de TGF-bêta, bref. Alors, que fait-on avec ce protocole ? Eh bien, c'est un protocole qui, une fois les conditions du milieu fixées, est assez simple, finalement. On prend ces cellules, cellules humaines ES, et on va les cultiver sur des cellules nourricières, sur ces feeder cells. Donc, ce sont des cellules qui sont... On remplit la boîte de cellules, et puis on traite ces cellules de façon chimique, on les irradie, peu importe, pour qu'elles arrêtent de se diviser, mais qu'elles soient toujours vivantes. Donc, ce sont des cellules qui fournissent un peu ce dont ces cellules ES ont besoin dessus. Hein. Donc, on va les passer plusieurs fois, un passage, deux passages, trois passages, dans ce milieu particulier avec ces inhibiteurs. Et puis, au bout de quelques jours, on va ramasser ces cellules, les collecter, les dissocier, en faire une suspension cellulaire, et les réétaler cette fois sur un substrat non adhérent, pour que ces cellules, plutôt que de coller sur le substrat adhérent, collent entre elles. Donc ces cellules vont se coller entre elles et vont commencer à faire des blastoïdes. Donc là, vous avez la deuxième étape. On remet ces cellules en culture non adhérente, avec trois milieux différents, avec des inhibiteurs différents, pendant premier jour, puis deux jours, puis deux jours. Vous voyez la complexité des protocoles. Hein, c'est en fait ce qu'on gagne en simplicité en utilisant un seul type de cellules, les cellules S au départ, on le paye, si vous voulez, on le perd en utilisant des systèmes de culture extrêmement compliqués. Mais si vous utilisez ces systèmes de culture, on obtient des blastoïdes, démontrés par ce laboratoire, qui sont absolument magnifiques. Donc vous les voyez ici, avec ces 70% d'efficacité. Hein. Alors, ces blastoïdes, comment être sûr que les cellules à l'intérieur sont bien des cellules de la masse interne, que les cellules à l'extérieur sont bien des cellules du trophectoderme? Eh bien, c'est assez simple. On peut utiliser des marqueurs. Ici, vous avez des anticorps qui vont reconnaître des protéines qui sont fabriquées par des gènes qui sont spécifiques à ces lignages cellulaires. Et là, par exemple, vous voyez en jaune une protéine qui s'appelle NANOG, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment une protéine type. Si vous la voyez quelque part, c'est du haut potentiel, c'est vraiment de la cellule souche. Donc quand vous avez à la fois NANOG et puis OCT4, ici, en jaune aussi, c'est que vraiment vous avez des cellules de l'épiblaste précoce, de la masse cellulaire interne. Ces cellules, en tout point, ressemblent les cellules similaires dans des vrais blastocystes. Et puis, on voit aussi des marqueurs du trophectoderme, par exemple CDX2, ici, en bleu. Vous voyez qu'on les voit partout, parce que ces cellules couvrent l'intégralité du blastoïde, hein, donc chaque cellule est bleue, sauf évidemment les cellules jaunes. D'accord ? Et puis des cellules que vous voyez en rouge, qui sont des marqueurs d'endoderme, vous en voyez quelques-unes, parce que l'endoderme commence à se différencier. Et c'est le deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est que la temporalité d'apparition des linéages cellulaires est respectée. C'est pas qu'on fait une boule et puis on va avoir du rouge. Non. On fait une boule et on va d'abord avoir un peu d'épiblaste et puis rapidement du trophectoderme et puis un peu plus tard de l'endoderme. Et c'est ce que vous voyez là, en fait, si l'on regarde ces marqueurs, on va d'abord commencer avec de l'épiblaste, puis rapidement du trophectoderme, et vous voyez que l'endoderme viendra plus tard. Donc on a ces branchements de linéage qui respectent en fait la temporalité de l'embryon. Alors, ces blastoïdes peuvent-ils s'implanter? C'est évidemment une question qui est extrêmement intéressante, non pas d'un point de vue de science-fiction, mais de savoir si la qualité de ces blastoïdes est telle que si on les met dans un milieu qui favorise l'implantation, ces blastocystes sont capables de s'implanter. Ces blastoïdes poussent en absence de zones pellucides. Vous vous souvenez sans doute, la semaine passée, je vous montrais des blastocystes en train d'éclore, donc qui sortaient de cette zone pellucide, parce que ces blastocystes, normalement, sont protégés par cette gangue de glycoprotéines qui les empêche de s'implanter aux endroits où ils ne devraient pas s'implanter, dans les trompes, par exemple, ou dans le viduc des souris. Or, ces blastoïdes ne se développent sans zone pellucide. La zone pellucide, elle provient de l'étape d'avant. Donc on peut se demander, est-ce que la surface va être la même? Est-ce que ça va être propice à l'implantation, etc. Et donc ces auteurs décident, toujours le même laboratoire de Nicolas Rivron à Vienne, décident d'utiliser un modèle d'organoïdes pour tester cette implantation. Je trouve ça, d'un point de vue épistémologique, je trouve ça extraordinairement intéressant, parce qu'on va utiliser des organoïdes pour voir si des blastoïdes s'implantent. On est chez les humains, on ne peut pas faire la manip dans un utérus, donc il va falloir trouver des façons de s'en sortir, et on va faire appel à des organoïdes. Ces organoïdes, en fait, sont assez intéressants. C'est un protocole, je pense qu'il y a des protocoles un peu plus performants actuellement, mais c'est un protocole qui était publié en 2017. Et ce que ces auteurs ont fait, c'est de dissocier du tissu de l'endomètre, en fait, qu'on peut obtenir, évidemment, un peu de tissu d'endomètre, couper, en faire un peu un hachis, et puis de le mettre dans des boîtes qui contiennent du matrigel. Alors le matrigel, c'est un peu la baguette magique des organoïdes, c'est une sorte de gel qui contient énormément de produits de la matrice extracellulaire qui favorise beaucoup la croissance de ces organoïdes. Une fois de plus, si ça vous intéresse, je vous invite à remonter sur le cours de 2018. Et lorsque l'on fait cela, en fait, on observe une expansion et, peut-être même plus intéressant, le maintien d'un épithélium endométrial. Donc cet épithélium qu'on va couper en morceaux, on va le mettre dans du matrigel, et il va faire une couche épithéliale. Et cette couche, les auteurs y réfèrent par ce terme OFEL, Open Face Epithelial Layer. C'est-à-dire, on a une couche d'épithélium endométrial qui est en face ouverte. Ce qui, d'ailleurs, est beaucoup plus pratique que de travailler avec un utérus, comme par exemple chez la souris, où on aurait quelque chose de fermé et on ne pourrait pas voir directement ce qui s'y passe. Donc là, on a vraiment une situation où l'on peut avoir ces organoïdes d'endomètre utérin et puis déposer dessus des blastoïdes et voir ce qui se passe. Alors, je vous rappelle que le blastocyste humain s'implante par le trophectoderme polaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc il va s'implanter par la face embryonnaire, non pas comme chez la souris, où il s'implanterait par la face murale, ici. Donc on a une implantation, les cellules du trophectoderme, ici du trophoblaste, vont devenir complètement folles, elles vont avoir une capacité invasive spectaculaire, elles vont avoir des ploïdies complètement anarchiques, elles vont dupliquer leurs chromosomes, ce sont de vraies cellules cancéreuses, en fait. Ces cellules vont envahir l'endomètre utérin pour aller chercher les vaisseaux, le sang, etc. Hein? Donc c'est vraiment un processus d'invasion qui est en soi qui est extrêmement intéressant. On a ici le stroma, et généralement, l'implantation normale se passe au septième jour. Alors, l'idée dans ces organoïdes, c'est évidemment de les stimuler hormonalement, parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Et il y a deux stimulations essentielles. Il y a d'abord des oestradiols, généralement du bêta-oestradiol, et puis bien entendu de la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone qui va, à l'ovulation, qui va aller préparer la muqueuse utérine pour l'arrivée de l'embryon. Donc, il faut, une fois qu'on a ces organoïdes, pendant qu'on fabrique ces organoïdes, pendant qu'on les met dans le matrigel, on va soit les stimuler de façon hormonale, qui ressemble beaucoup à une stimulation hormonale mensuelle, soit on va ne pas les stimuler, et donc on aura comme contrôle des organoïdes d'endomètre utérin non stimulés. Alors bon, voilà, un petit inhibiteur de Wnt, pour des raisons que je n'ai pas vraiment regardé en détail, et puis un milieu de culture d'embryon qui est un milieu classique dans les FIV. Alors comment est-ce qu'on voit si ces embryons s'implantent? Eh bien, il y a plusieurs paramètres qui sont utilisés par ces auteurs, mais laissez-moi juste en prendre un, qui est simplement l'observation. On voit que lorsque l'on pose des blastoïdes sur ces organoïdes de muqueuse utérine non stimulés, c'est ce que vous voyez là. Bien, vous voyez que ces blastoïdes, en fait, ils restent penauds. Ils ne sont pas mécontents, mais ils ne font rien, en fait. Vous voyez ici la masse cellulaire interne, le trophoblaste. Alors que quand vous les posez sur une muqueuse utérine qui a été stimulée, eh bien, on voit ce processus d'invasion qui est absolument spectaculaire, en fait, où l'on voit ces cellules polaires, donc du bon côté du bon côté du blastoïde qui vont commencer à envahir cette muqueuse utérine. Vous voyez ici la quantification de ce phénomène est pratiquement 30% des blastoïdes qui sont déposés sur ces organoïdes de muqueuse utérine sont capables d'avoir ces signes d'implantation. Alors, est-ce que ces signes d'implantation correspondraient à une implantation si l'on introduisait ces blastoïdes dans un vrai utérus stimulé? On n'en sait rien. Mais c'est aussi loin qu'on peut aller dans la qualification de ces blastoïdes en disant que, en tout cas, dans ces conditions, ils sont capables de montrer de bons signes d'implantation. Je pense que je n'irai pas plus loin dans la formulation de cette conclusion. Alors, encore plus étonnant sur la droite, vous voyez que... Ah oui, ici, une chose intéressante, c'est que quand vous stimulez ces organoïdes en présence de levonorgestrel, qui est donc le composé principal de ce qu'on appelle la pilule du lendemain, qui est un composé qui a en fait deux effets, qui a un effet sur l'ovulation, si c'est pris avant, ou bien sur la saturation des récepteurs à la progestérone dans l'utérus, ce qui fait que l'utérus ne va plus répondre en fait aux hormones, donc on va faire passer l'embryon, il n'y aura pas d'implantation. Eh bien, lorsque l'on rajoute ce contraceptif, eh bien, on voit qu'il n'y a pas d'implantation. Donc là encore, des signes qui suggèrent qu'on a vraiment affaire à un mécanisme d'implantation. Et puis sur la droite, chose un peu gadget, mais tout de même assez intéressante, vous voyez ici l'apparition de cette bande dans le cas de la stimulation et pas de bande dans le cas de la non-stimulation. Alors ce que vous voyez là, c'est de l'hormone chorionique gonadotrope, c'est simplement un test de grossesse. Et vous voyez que lorsque l'on ramasse le milieu, donc c'est hyper simple, hein, vous avez vos cultures, on ramasse le milieu dans lequel des blastoïdes se sont pseudo-implantés, et puis on ramasse le milieu dans lequel les blastoïdes se sont pseudo-pas implantés, et bien vous voyez que dans le milieu des blastoïdes implantés ou pseudo-implantés, on détecte de la HCG. La HCG, c'est intéressant parce que c'est une hormone qui est produite par les cellules du trophoblaste, hein, donc par les cellules qui s'implantent, hein, et c'est la raison pour laquelle c'est un test très sensible, le test le plus précoce qu'on peut utiliser pour une grossesse. Voilà, alors, dernière chose, dernière image, ces conclusions. Alors, il y aurait beaucoup à dire, des conclusions très intéressantes. La première, évidemment, c'est que ces blastoïdes semblent vraiment être un modèle adapté à l'étude du développement et de l'implantation de l'embryon humain. Et ça, c'est quelque chose qui paraît logique après ce que je vous ai dit, mais j'aimerais quand même répéter ce que je disais la semaine passée. Une très grande partie des échecs de fertilité probablement se passe au niveau de l'implantation. Vous vous souvenez, c'est question de fenêtre temporelle. Donc, de pouvoir disposer d'un système qui pourrait, en quelque sorte, refléter au moins certains des mécanismes de l'implantation, c'est déjà un pas important. On peut imaginer, une fois ce système un peu standardisé, qu'on puisse essayer de faire des criblages, d'essayer de trouver des conditions qui favorisent ou qui défavorisent, où on a plus de pourcentage d'implantés, moins de pourcentage. Donc on a là du matériel pour faire quelque chose. Deuxièmement, l'utilisation pour des cibles thérapeutiques. Amélioration des conditions de milieu pour la FIV. Est-ce qu'en rajoutant un peu de ça, on n'aurait pas des embryons plus performants en termes de survie, d'implantation? Ou bien qu'est-ce qu'on a dans les milieux actuels qui ne sont pas performants, qu'on ne devrait peut-être pas utiliser? On peut commencer à imaginer, en quelque sorte, qu'il y a des fenêtres qui commencent à s'ouvrir pour ces questions. où peut-être dans les années à venir, on va pouvoir commencer à étudier des questions intéressantes qui touchent à ces problèmes. Et puis finalement, la fin de ces conclusions, c'est des conclusions courtes, hein, dans le magazine Nature, la fin de ces conclusions, qui mentionne donc à la fois le concept de proportionnalité et le concept de subsidiarité. Donc le concept de proportionnalité en éthique, c'est évidemment ce qu'on appelle la balance des intérêts entre le bénéfice, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et aux yeux de ces auteurs, et j'ai de la peine alors de les tort en fait, on est là dans une situation où la balance des intérêts est très favorable, c'est-à-dire que on est dans un stade de développement qui est très précoce, qui est autorisé, on part de matériels qui ne sont pas des embryons, donc on est vraiment dans une situation où on devrait pouvoir travailler. Alors j'ai un peu plus de peine avec la balance, avec le concept de subsidiarité. En lui-même, c'est un concept qui me semble évidemment essentiel. Je ne suis pas sûr que ce soit moins problématique d'un point de vue moral d'utiliser ces blastoïdes. Je pense que d'un point de vue éthique, c'est moins problématique. J'ai l'impression, en fait, pour tout vous dire, que il faudra que je demande à Nicolas Rivron, mais qu'en fait, le mot morali a été utilisé ici, puisque le mot ethical était utilisé là, et peut-être essayer d'éviter un doublon de vocabulaire, ne pas mentionner deux fois le mot éthique. En ce qui me concerne, j'ai de la peine à voir où se trouve la morale là-dedans. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Par contre, j'ai beaucoup de facilité à voir où se trouvent les questions éthiques que ces embryons soulèvent et qu'il s'agira de traiter. Voilà, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, je parlerai d'un système qui est différent et qui est déjà utilisé pour des applications intéressante, qui est le système des gastrulides. Bonne soirée, merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.